Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine. Alors soit en direct, soit en podcast, c'est quand vous voulez, où vous voulez. C'est la magie de Bob vous dit toute la vérité de toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur cette première web radio française et européenne par abonnement. Merci d'être avec nous. Et je vais pas faire le gars qui va vous présenter l'invité sans vous dire son nom, etc. Puisque forcément vous connaissez le nom, hein, puisque vous écoutez cette émission qu'on a mis en gros sur le site internet. Il s'agit de quelqu'un que j'adore. Nelson Montfort. Bonjour Nelson.
Bonjour Yves, bonjour à vous tous. Très heureux de partager cette heure en votre compagnie.
On a quelques millions à vous apprécier dans tous vos commentaires, dans ce que vous faites avec Philippe Candeloro, Sochi. Vous m'avez fait rêver, vous avez fait rêver. Malgré toutes les critiques qu'on a pu entendre sur tous les présentateurs sur France Télévisions, vous avez fait un super boulot. En tout cas dans les images, dans les commentaires, c'était très bien.
Nous avons été accompagnés, je dirais, par des images magnifiques, ouais. Par des Jeux Olympiques vraiment, vraiment magnifiques, et puis surtout, qui nous ont permis, en tout cas, qui m'ont permis de faire découvrir des épreuves peut-être un peu moins connues du public français. Je pense notamment au short track et au patinage de vitesse. Et c'est d'autant plus intéressant que dans ces deux disciplines-là, les Français ne brillaient pas particulièrement. Et malgré ça, je veux dire, elles ont obtenu un succès populaire formidable. Donc ça me fait plaisir. Ça prouve que le téléspectateur sait aussi ne pas être chauvin. Jeux Olympiques oblige.
Et puis France Télévisions, c'est aussi les Jeux Paralympiques ensuite, avec une brochette, 4 médailles d'or, fantastique. Moi, j'ai regardé les images, c'était pareil, on vibrait de la même façon. C'était vraiment exceptionnel. Alors, Nelson Montfort, dans les connus face à l'inconnu, une personnalité connue pour parler de sa vie, de son parcours, il y a beaucoup de choses à dire, de son actualité et de ses projets, de tous les sujets inconnus, avec cette part de mystère et d'inconnu qui nous réunissent ici. Ben, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord parce que vous avez vu des ovnis, vous avez déjà témoigné et vous affirmez haut et fort en tapant sur la table que ça en était un, on vous fera pas douter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis on parlera de vos actualités. Je me suis régalé en tant que passionné de sport. Nelson Montfort, Sport, mes héros et légendes, votre sixième bouquin aux éditions Place des Victoires. Et c'est plus de 300 pages avec des photos magnifiques parce que le sport, c'est des images, mais aussi beaucoup de belles photos et des commentaires qui complètent parfaitement l'émotion suscitée par les couleurs et les photos. Bravo, mais enfin, vous avez du talent, vous n'en manquez pas, mais ça, on le savait déjà.
J'ai essayé, effectivement, non seulement de choisir, il y a 250 événements de sport qui datent, en fait, du 1900 jusqu'à nos jours. J'ai pris comme date de départ les Jeux Olympiques de Paris inaugurés par Pierre de Coubertin, où des marathons se couraient. Le marathon se courait non loin d'ici, là, du côté du Bois de Boulogne. On ne savait pas que c'était un marathon. Vous voyez les gars courir. Et les Jeux Olympiques avaient duré 8 mois. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des Jeux Olympiques.
1900 à Paris.
Voilà. Alors tout ça, c'est un peu la légende du sport. Et justement, je trouve que ce genre d'anecdote est intéressant, et c'est ce que j'ai voulu mettre effectivement dans ce livre, en choisissant donc 250 grands événements, et puis effectivement tous ceux qui en ont été les héros.
On en reparlera. Alors, je vais vous présenter rapidement sur quelques dates, au cas où quelqu'un qui vivrait dans une grotte depuis une trentaine d'années ne vous connaîtrait pas vraiment. Né le 12 mars 1953.
Il y a des gens qui vivent dans des grottes, absolument. Mais il paraît qu'il y a des gens qui connaissent même pas le résultat de la Coupe du Monde de football 98 en France.
Non.
Je ne plaisante pas.
Ah ouais.
Incroyable. Il faut qu'ils écoutent la radio de Bob parce que voilà.
C'était la France. 12 mars 1953. Boulogne-Billancourt, pas très loin d'ailleurs.
Pas très loin d'ici, absolument, je le confirme.
Il y a quelques semaines de la date de l'enregistrement de cette émission, une mère néerlandaise et un père américain, qui a fait la guerre d'ailleurs, qui a dû vous raconter des choses assez fortes, je l'imagine. Donc, d'où cette pluriculturalité dans votre vie. Vous avez commencé une licence en droit avant d'intégrer ensuite l'Institut d'études politiques de Paris. Partez en stage aux États-Unis pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de la finance, puis vous dites non, là ça va pas être mon truc, là ça va pas être possible.
Ça va pas être mon fort.
Ouais.
Elle est facile.
Et puis direction le journalisme. Vous commencez votre carrière avec dans les journaux, les magazines, ça va de Journal du Dimanche, etc., etc. Ensuite la radio sur Europe 1. Vous êtes revenu d'ailleurs ensuite quelques années bien. Plus tard avec Europe 1 Sport, feu la
où
radio.
Où j'ai connu des personnes très sympathiques.
Ouais. Nous y étions avec Bob et moi-même pour animer une émission de golf, parce que vous êtes un grand passionné de golf. On s'est souvent rencontrés sur des parcours.
C'est juste.
Vous avez même essayé d'être caddie. J'ai lu ça.
C'est juste.
Caddie
oui,
professionnel.
Parce que, Enfin, disons que le côté joueur qui a dit m'intéressait et m'intéresse toujours. Peut-être que le poids du sac était un petit peu trop fort pour moi.
Ouais. Bon, ensuite, l'arrivée à France Télévisions avec une date qui est le 11 octobre 1987, avec une interview de Martina Navratilova qui a été un petit peu... On en parlera un petit peu plus tard, qui a été un petit peu une bascule du destin, l'entrée dans la France Télévisions. On reviendra sur ce parcours de votre vie et sur votre sensibilité à tous ces thèmes. Mais d'abord, voilà, ça fait 4 minutes qu'on parle de vous. Vous avez donc vu, vous avez eu la chance de voir ça, j'adorerais voir des ovnis.
Mmh. Ouais. Oui, enfin, c'est-à-dire que j'en ai vu un.
C'est déjà pas mal. Racontez-nous.
Et je tiens à dire que c'était une rencontre du premier type, c'est-à-dire donc observation, et non pas contact, et encore moins contact physique. Mais effectivement, c'était dans les années 80, au-dessus du ciel des Arcs, en Savoie, une station que vous connaissez probablement, une nuit pleine d'étoiles, mais vraiment pleine d'étoiles, et j'ai vu effectivement un objet rectangulaire, extrêmement lumineux, qui
comme une feuille, vous êtes en train de montrer une feuille A4
que je situerais peut-être, je sais pas, peut-être 2-3 kilomètres, enfin je ne sais pas, mais surtout il y avait deux choses qui m'ont profondément marqué. La première, c'est qu'il était extrêmement lumineux et qu'il avançait donc horizontalement au-dessus de la crête donc des montagnes. Et la seconde, c'est qu'il ne faisait absolument aucun bruit. Et ça, c'est un témoignage qui recoupe ceux des plus grands spécialistes et ceux des plus grands observateurs de ce type de phénomène. On n'entend nul bruit de moteur. Et cet objet, donc extraordinairement lumineux, tout d'un coup, fait une sorte de virage à 45 degrés et monte, disparaît à une vitesse vertigineuse. Voilà ce que j'ai vu. Alors, personne n'est obligé de me croire, mais comme le disent tous les observateurs qui ont été le témoin de ce genre de phénomène, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Et ce qui me rassure, c'est que, comment dire, c'est qu'à peu près aujourd'hui, 50% des Français, enfin des Français même du monde, j'imagine, croient. Ils croient. J'imagine que par rapport à 50 ans en arrière, ça doit être au moins le double ou le triple ou le quadruple. Donc voilà, vous me connaissez un petit peu. Je n'ai jamais été sous de ma vie. J'avais ma femme à côté de moi comme témoin. Non, honnêtement, je sais ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu n'était ni un avion, ni un hélicoptère, ni une météorite, ni une étoile filante, ni quoi que ce soit de tout ça.
Aucun doute là-dessus.
Je n'ai aucun doute sur ce que ce n'était pas.
D'accord.
Ce qui est déjà pas mal.
Ouais.
Alors à partir de là, qu'est-ce que ça pouvait être?
Quelle était la taille à peu près, grand comme c'était rectangulaire, un terrain de foot, quelque chose comme ça?
C'est très difficile de dire parce que comme encore une fois, je ne situais pas exactement la distance par rapport à. Enfin bon, on va dire, je ne sais pas, j'imagine j'imagine un objet peut-être de 80 mètres de long, peut-être un petit peu comme un avion.
On peut pas se tromper vu la taille, on peut pas se tromper.
Surtout. D'une rare clarté, il brillait tellement presque en être aveuglé d'une lumière. C'est un petit peu comme vous regardez le soleil, quoi. Vous pouvez pas regarder le soleil, sauf que là c'était la nuit. J'ai quand même pu le regarder. Et je dirais que la durée de l'observation, parce qu'on m'a aussi demandé quelle était la durée de l'observation, je ne sais pas, je l'évalue peut-être à un petit peu comme je viens de vous l'expliquer, peut-être une vingtaine de secondes. Mais une vingtaine de secondes, c'est très très long. Parce que moi je l'ai capté, il était déjà là. Je veux dire, il ne m'a pas attendu. Donc,
ouais, c'est ça en fait. Quand il est arrivé, quand vous l'avez vu, il était déjà en train de flotter au-dessus de cette crête.
Exactement.
Et 20 secondes, quand on observe des phénomènes comme ça,
peut-être était-ce 15, peut-être était-ce 30. Mais enfin, c'était pas. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a duré en tout cas suffisamment longtemps pour que près de 30 ans après, ça me marque. Oui, parce que c'était extrêmement marquant.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec votre femme à ce moment-là?
Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu?
Ouais. Déjà, ouais.
Ouais, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Et
mais alors,
c'est extraordinaire. C'est
dommage de ne pas avoir d'appareil photo sur soi à ce moment-là.
À l'époque, on n'avait pas de portable. Ouais, pas de portable, ouais. Et puis je n'avais pas d'appareil photo sur moi, etc. Mais il y a des milliers de photos de d'ovnis.
Bon, on en met tout le temps sur le site.
Oui, justement. Ouais. Et alors, bon, je dois dire, parce que bon, il m'est arrivé d'être invité dans pas mal d'émissions. Je ne savais pas du tout que ça allait déclencher un tel phénomène, mais il m'est arrivé d'être invité dans pas mal d'émissions. Et là, j'ai vraiment discuté avec des vrais scientifiques, des grands scientifiques qui me croient tous.
Ah oui.
Qui me croient tous. Oui, tout à fait. J'ai discuté avec des pilotes qui ont vu des phénomènes autrement plus inquiétant n'est pas le mot, mais autrement plus fort que le mien, oui.
Oui, qui n'étaient pas seulement de la lumière, des objets métalliques qui tournaient autour de leurs avions, alors qu'ils étaient à Mach 2, et l'objet s'amusait autour d'eux et disparaissait, mu et mu apparemment par une intelligence qui faisait des choses volontaires. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Voilà.
Tous les témoignages, souvent il y a deux, trois pilotes à la fois qui voient la même chose. Donc, on ne peut pas parler d'une hallucination non plus.
Il y a un endroit en France qui est très très propice à ce type d'observation, c'est tout au-dessus de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Vous avez sans doute entendu parler, il y a une sorte de plateau un peu qui doit être dans le 06 ou dans les Alpes-Maritimes, où apparemment il y a beaucoup d'observations et donc de scientifiques qui s'y réunissent.
Au Canada aussi. En 2013, il y a eu plusieurs centaines d'observations d'OVNI.
C'est exact,
au
Canada,
là, en 2013,
le Canada est un pays aussi où il y a beaucoup de...
Vous savez que le GEPAN, qui est l'organisme chargé de recenser et d'étudier les ovnis, explique par des phénomènes météorologiques à peu près 80% des observations. Il y a quand même 20% où ils n'ont pas de réponse. Alors ils disent, ça nous inquiète, on ne sait pas. Alors,
c'est beaucoup 20%.
C'est beaucoup 20%. Alors ils ne disent pas que ce sont des extraterrestres, autres, mais là ils disent, on ne sait pas. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de luminosité reflétée sur une fenêtre ou quelque chose qui pourrait être expliqué. Là, on ne sait pas. Donc c'est effectivement beaucoup. Et ça interroge. Vous regrettez pas d'avoir témoigné, de l'avoir dit
pas
après,
du non tout,
pas du tout, parce que parfois.
Encore une fois, non, parce que si c'était une invention, je regretterais. Puis, de toute façon, si c'était une invention, vous savez, les inventions, elles se retournent toujours contre ceux qui.
Donc, Pinelphone, vous n'avez pas besoin de ça pour la popularité.
Je vous le dis. Et la deuxième chose, c'est que je ne parle de ça que lorsqu'on me demande d'en parler. Je n'en parle pas spontanément. J'ai d'autres sujets de conversation. Même si je trouve que c'est un phénomène aujourd'hui. Et puis, je trouve aussi que c'est un phénomène qui enclenche finalement aussi une part de rêve, une part de poésie, une part de magie. Je n'ai jamais eu peur. J'anticipe peut-être sur une question, mais je n'ai jamais eu peur en voyant cet objet. Je n'ai jamais eu peur. Mais si on parle d'objet volant non identifié, ces quatre lettres-là, c'était exactement ça. Et j'ajouterais avec un S pour silencieux. Et ça, c'est très frappant. Ça, c'est très frappant. Et encore une fois, c'est là où... parce que bon, un avion, un hélicoptère, tout ce que vous voulez, ça fait quand même un bruit.
Surtout en montagne.
Et là, c'est ça surtout ce qui m'a véritablement frappé. Et c'est là où je pense qu'on peut accorder que c'est un témoignage sérieux, puisque ça recoupe, comme je le disais il y a quelques instants, le témoignage de pilotes de chasse, de pilotes de la NASA, qui ne sont pas des affabulateurs, quoi.
Tout à fait. Est-ce que vous y croyiez avant d'avoir observé ça? Est-ce que vous pensiez déjà aux ovnis? Vous croyez aux extraterrestres, si on va dire, avant l'observation?
Je me suis toujours passionné pour la conquête de l'espace. J'étais tout jeune homme à l'époque, quand il y avait les premières missions Apollo et tout. Et je me passionnais pour ça. Mais non, je n'étais jamais rentré dans l'univers des ovnis, non. Ce qui, je pense, rend le témoignage d'autant plus
crédible.
Je pense, oui.
Et qu'est-ce que ça apporte philosophiquement après?
Que nous ne sommes pas les seuls. Parce que j'ai du mal à penser que c'est qu'un engin comme celui-là n'est pas dirigé d'une manière ou d'une autre. Alors est-il dirigé de l'intérieur ou est-il dirigé depuis une autre planète? Je n'en sais rien.
C'est un drone extraterrestre.
Système solaire. Mais enfin, j'ai du mal à penser qu'un objet comme celui-là ne puisse pas être commandé ou télécommandé. Ça me paraît être une certitude. Donc à partir de là, c'est là où je me suis intéressé donc aux témoignages, etc., qui remontent à très 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 longtemps en arrière. Ouais. Donc je veux dire, la question est de savoir s'il y a des civilisations plus avancées techniquement que la nôtre. Apparemment, oui.
Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a plus marqué qu'un autre dans tout ce que vous avez recherché?
Je pense que la plaque laissée par les premiers hommes sur la Lune en disant nous sommes venus en homme de paix le 21 juillet 1969 en homme de paix, etc. Voilà, je pense que si on laisse une plaque comme celle-là, si la NASA décide de laisser une plaque comme celle-là, c'est peut-être à ce qu'elle s'attend qu'elle soit vue, cette
c'est
plaque.
C'est peut-être pas si innocent que ça. D'accord.
Voilà, c'est drôle parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tellement insisté. Or, ça a été fait. J'ai un doute sur le fait, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 missions qui ont réussi à se poser sur la Lune. Enfin, il y en a eu une, Apollo 13, qui n'a pas réussi, mais je crois que ça a été jusqu'à Apollo 17, donc ça fait 5 ou 6 missions. Par contre, j'ai un doute, est-ce qu'on a laissé une plaque à chaque fois, parce que c'était pas aux mêmes endroits? En tout cas, pour l'Apollo 11, sur la mer de Tranquillité, puisque tel était l'endroit où la capsule, le LEM, s'est posé, Armstrong et Aldrin ont laissé cette plaque. Je réponds à votre question. J'ai l'impression que si on laisse une plaque comme celle-là, c'est qu'on pense qu'elle va s'adresser à quelqu'un.
Ouais, si on est ouvert à ça, en tout cas.
Voilà.
Complètement.
On est ouvert à ça.
Et ben, c'est une anecdote qui n'est pas très connue, effectivement, de laisser cette plaque. Ouais, c'est passé un peu à la. C'est étonnant, hein.
Ouais.
Que dans ces cas-là, on se serve pas plus de petits signes comme ça qui sont évidents. Comme vous le dites, si on le fait, c'est pas innocent. Vous le laissez. Donc, vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent venir. Vous avez des preuves. L'affaire Roswell était pas si loin que ça, finalement. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
On a vu sur la Lune, il y a des photos. Alors, ces photos, est-ce que ce sont des trucages? Aujourd'hui, on peut truquer à peu près tout ce qu'on veut, mais sur la Lune, qui est notre planète la plus proche, il y a des photos qui sont extrêmement troublantes, mais extraordinairement troublantes, avec notamment une piste d'alunissage, faut-il dire, qui est très très longue.
Qui est droite, longue.
Vous l'avez vu cette photo?
Ouais, tout à fait. Il y a des choses
qui est droite et longue, et qui ressort vraiment. Donc,
qui est pas franchement naturelle.
Voilà, qui n'est pas franchement naturelle. Donc, alors évidemment, on peut dire que la muraille de Chine, qui apparemment est le seul monument de construction terrestre qu'on peut voir depuis la surface de la Lune, c'est un petit peu la même chose, mais.
Bah
voilà,
justement.
Ça a été construit par l'homme.
Justement.
Donc, voilà, je. Ouais, moi, enfin, je pense que vous sentez au ton de ma voix que tout ceci me passionne véritablement, oui.
Ça tombe bien dans cette émission, les connus face à l'inconnu. Ça tombe très très bien. On va faire une petite pause.
Les connus face à l'inconnu avec Yves Cara.
Avec, bah écoutez, les premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué à ne rater sous aucun prétexte au mois de juin. Attention, les places pour venir à ces rencontres, c'est uniquement sur Internet, hein.
Bob vous dit toute la vérité présente, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet.
Voilà, maintenant, vous savez, et vous y serez, on vous rencontrera, on discutera de tout ça et ce sera passionnant.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Et surtout aujourd'hui avec Nelson Montfort. Alors, on parlait de l'espace, il y a Neil Armstrong dans ce livre, Sport, mes héros et légendes, il y a Neil Armstrong.
Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, parce que vous m'avez fait l'amitié de lire ce livre.
Ben complètement,
il se trouve que les trois événements, on va dire, un petit peu plus proches de l'aventure que du sport à proprement parler, ont tous trait au ciel. Le premier, c'est la première traversée de l'Atlantique par Lindbergh. Parce que qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai montré les grands événements de sport du 20e siècle et même du 21e siècle. Et le sport rejoint souvent l'histoire. Mais je ne pouvais pas passer à côté, surtout documents photographiques à l'appui. Et quels documents photographiques? Je ne pouvais pas passer à côté de j'en ai mis trois. Peut-être qu'il y en a pu y avoir plus, je ne sais pas. Mais qui rejoignent à la fois le sport, l'aventure, et en tout cas véritablement l'aventure humaine, qui sont donc effectivement la première traversée de l'Atlantique par Lindbergh.
Ouais.
Le premier homme au sommet de l'Everest, enfin les deux premiers hommes au sommet de l'Everest, Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing, et Hillary insistant pour mettre en avant le Sherpa Tenzing.
C'est lui qui a pris la photo.
Exactement. Merveilleux. Alors que jusqu'à merveilleuse photo qui est dans mon livre. Et enfin, effectivement, vous venez de le dire, le premier homme sur la Lune, parce que je pense que ce sont des exploits tout simplement, enfin, qui se poursuivront tout au long de l'histoire du monde.
Oui, et une performance sportive et physique aussi. Parce que dans l'avion, pour la traversée de l'Atlantique, c'était très très dur. D'ailleurs, il n'a pas pu bouger. Il a fait ses besoins naturels dans sa combinaison.
Non seulement ça, mais il y a une anecdote que je ne résiste pas de vous raconter qui est absolument effrayante. Parce que bon, j'ai voulu évidemment mettre des anecdotes que peut-être le grand public ne connaissait pas. Imaginez que quand Lindbergh s'était lancé donc à côté à Newport, à côté de New York, de nuit, son monomoteur, le Spirit of St. Louis, était tellement lourd que pendant les quatre premières... Écoutez cette histoire parce qu'elle fait frémir. Et pendant les quatre premières heures de vol de nuit sur l'Atlantique, les ailes de l'avion touchaient les vagues de l'Atlantique. C'est-à-dire que il volait à deux, trois... Parce que le carburant, l'avion était tellement lourd que, alors, au fur et à mesure, évidemment...
Il a pu prendre de l'altitude.
Il a pu prendre de l'altitude. Mais les quatre premières heures de nuit...
Oh, la frayeur. À chaque minute, il pouvait percuter une vague et tomber.
Bah, c'est-à-dire que les vagues, en général, parfois, elles percutent les bateaux, elles vont sur le pont des bateaux, ça, c'est classique. Mais sur un avion, c'est plus rare.
Ouais.
Et je tire mon chapeau à quelqu'un comme Lindbergh, à quelqu'un comme Hillary, Et puis naturellement Armstrong, oui, ce sont des, je pense que ce sont des hommes qui ont vraiment mérité de l'histoire de l'humanité. Oui, je le pense vraiment. Oui.
Un sacré mental et un sacré destin aussi. Et moi j'aime bien parler de la force du mental dans la performance sportive en général et dans ce que l'homme peut avoir en connexion avec la matière. Moi j'aime bien tout ça. Et en ce qui concerne le destin, je vous parlais tout à l'heure de votre destin à vous. On va parler de vous, du 11 octobre 87, parce que dans tout ce que j'ai pu lire en dehors de ce que je savais déjà sur vous, et j'en sais beaucoup, puisqu'on se connaît depuis longtemps, il semblerait que ce soit une interview de Martina Navratilova qui a un peu déclenché la Montfortmania.
C'est pas l'année où j'ai raté un putt de 50 cm.
Non, pour ne pas avoir le master, c'est ça. Ouais. Vous n'avez pas fait une bande de velde, là, il n'y a pas de souci.
Non, c'est-à-dire que c'était effectivement mon premier reportage à la télévision et j'avais vraiment commencé par du lourd, si je puis dire, parce que c'était un tournoi. Le tournoi lui-même n'avait pas grand intérêt, c'était le trophée de la femme au Cap d'Agde. Mais les quatre joueuses présentes étaient effectivement Navratilova, déjà nommée, Chris Evert, Arantxa Sanchez et Steffi Graf.
Des stars
qui,
de l'époque.
Qui étaient les quatre meilleures joueuses du monde, tout simplement. Et nous étions sur FR3, comme on disait à l'époque, seul diffuseur. D'ailleurs, je me souviens qu'au départ, ça devait être plus ou moins retransmis sur France 3 à Montpellier. Et puis finalement, on avait décidé que, vu le plateau, on diffuserait sur France 3 National. Et effectivement, Martina a été à l'époque numéro 1 mondiale. Et la première interview que j'ai faite, c'était avec elle. Et surtout, ce qui s'était passé, enfin de mémoire, hein, ça remonte quand même maintenant à quelques années, c'est qu'elle s'était confiée de manière sortant totalement du tennis. Et deux raisons à ça. La première, c'est que c'était un tournoi qui, sur un plan sportif, n'avait pas un grand intérêt. Donc, il permettait peut-être.
T'es plus à l'aise.
Et qui, moi, me faisait dire, après tout, peut-être qu'avec ces champions, championnes, il est possible d'aller plus loin qu'uniquement le résultat du match. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et que je continue à essayer de faire quand l'occasion se présente. Parce que c'est pas toujours le cas, depuis le début de mon itinéraire professionnel.
Et ça a été la bascule. Est-ce que vous croyez qu'un destin est préécrit? Parce que vous étiez un bon journaliste, un bon professionnel, et vous aviez toutes les qualités pour être beaucoup plus, en tout cas sortir du simple cadre sportif, mais encore faut-il un révélateur, et là ça a été un signe du destin. Vous croyez à ça, au signe du destin?
Je crois volontiers au fait que quand il y a un joli train qui passe, il faut savoir monter dedans, tout au moins si ce n'est pas un omnibus. Alors celui-là, c'était un TGV avant l'heure, c'est sûr. Alors évidemment, je ne savais pas, vous savez, je me suis dit, peut-être que ça s'arrête là. Puis ça ne s'est pas arrêté là, grâce à deux personnes, trois même, que je suis vraiment heureux de citer, les frères Drey, Michel et Adolphe, que vous connaissez probablement, l'un commentait, l'autre réalisait. Et puis par la suite, Jacques Chancel, qui est donc devenu directeur général de France 3 et que je peux considérer un petit peu comme mon parrain dans la profession. Jacques qui me disait et qui continue à me dire, pour réussir ou pour essayer de réussir dans ce métier, il faut aimer les gens. J'aime cette phrase. J'aime aller vers les gens.
Vous êtes un très bon accoucheur.
J'essaye en tout cas d'être, quand je dis vers les gens, c'est pas seulement vers les sportifs ou les hommes politiques, etc., que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce que qui dit grand événement de sport dit en général présence plus ou moins spontanée des plus grandes de ce monde. Et là vraiment j'ai eu l'occasion de rencontrer des présidents russes ou américains en exercice, etc. Mais effectivement aller vers les gens, c'est aussi aller vers le public, vers le public de tous les jours. Je crois que la longévité d'une carrière comme celle de Michel Drucker, c'est aussi dû à ça. J'en ai souvent parlé avec lui, puisqu'il m'honore de son amitié. Et nous avons souvent parlé ensemble, on s'est souvent côtoyés, notamment dans les salons du livre. Ça passe par le fait, vous voyez, quand on fait une dédicace dans un salon du livre, de ne jamais mettre exactement la même dédicace à deux personnes différentes. Vous me direz, c'est pas beaucoup.
Bienveillant et attentionné.
Oui, je crois que c'est quelque chose d'important, oui.
Alors moi, dans l'avant-propos de ce livre que vous avez écrit, en tout cas, vous avez... commenter les merveilleuses photos. Moi, j'aime cet ouvrage. N'est pas une encyclopédie. Il pourrait facilement avoir un petit frère illustrant tout autant d'exploits. Il fallait simplement faire des choix autour des fameux 4 H. J'adore. Humour, honneur, humilité, humanité. C'est le point commun des héros. Et là, tiens, un cinquième H. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, vous avez quand même un destin hors du commun. Est-ce que petit, vous sentiez qu'il allait avoir quelque chose de différent dans votre vie, une sorte de prémonition? Quelque chose
c'est
de différent.
C'est difficile à dire, mais je vais vous faire une petite confidence que je croyais n'avoir jamais faite. C'est drôle, mais ça prouve que je suis en confiance. J'étais avec mes parents en vacances sur une île turque, au large de, je ne sais pas, une île, mais une île en plus un peu perdue, quoi. Et apparemment, ma mère, j'avais dû avoir 3-4 ans, apparemment, ma mère avait vu une voyante là-bas, vous savez, en Turquie, en Orient, voyance, en comme les marabouts en Afrique. Et votre fils, alors j'imagine que c'était finance à l'appui, parce que les voyants, etc. Et votre fils, il aura un destin, enfin voilà, de ce genre. Donc voilà, mais bon. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Sinon, non. D'ailleurs,
qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit qu'il aurait un destin.
Que j'aurais
beaucoup de notoriété.
Que je deviendrais quelqu'un de connu ou de reconnu dans l'exercice de ma fonction. Alors, ça pouvait être, je ne sais pas, peut-être dans la chanson, dans la politique ou dans il se trouve que ça a été dans le journalisme. Mais honnêtement, même encore aujourd'hui, vous me connaissez un petit peu, tout ceci ne m'empêche nullement d'avoir la tête sur les épaules. Mais vraiment nullement. Et ceux qui me connaissent le savent.
Ah, ça, tout à fait. Est-ce que vous avez quand même été consulté?
J'ai vu par le métro.
Ouais. Ah ouais? Moi, non, mais ça m'étonne pas.
Surtout qu'il est gratuit aujourd'hui. Ouais. j'ai pas eu besoin que Candeloro m'offre un billet.
Ah, Candeloro, faudra lui dire de venir ici. Hein. Moi,
aujourd'hui, c'est gratuit, il serait venu. Je le taquine parce que je l'adore.
Et il en joue avec, il a beaucoup d'humour aussi.
Absolument.
Est-ce que vous avez déjà consulté des voyantes ou des astrologues pour quand on est jeune, qu'on démarre dans la vie, on a besoin d'avoir un petit... Jamais?
Non.
Vous êtes un petit peu fermé à tout ça finalement, hein?
Oui, mais d'un autre côté, je vous dis que ça, il y a quelques minutes que l'OVNI, je l'ai vu. Donc non, je ne... Si vous voulez, j'ai du mal, je pense que j'aurais du mal à distinguer le sérieux du un petit peu moins sérieux.
Et si elle vous parle de ce qui s'est passé avant dans votre vie?
C'est autre chose. C'est autre chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut à peu près tout trouver, n'est-ce pas? Enfin, tout.
Oui, beaucoup,
c'est vrai. Enfin, pas mal de choses.
Il faudra arriver masqué, en fait. Il faudra qu'elle ne vous connaisse pas. Et là, vous pourriez douter.
Oui, je suis extrêmement ouvert à
ça. Est-ce que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires? Vous vous levez un matin, vous avez rêvé quelque chose et ça se passe. Pas la victoire d'un grand champion, vous avez commenté peut-être.
Il faudrait que j'y... Le problème du rêve, et vous qui vous intéressez à ça, évidemment, je pense que vous serez de mon avis, c'est qu'on a tendance à ne pas s'en souvenir. Alors j'ai eu une période où je notais même, c'est dire que le phénomène m'intéresse. Je notais, mais après, j'ai dû arrêter de noter ça. Mais
c'est un septième bouquin, ça, les rêves de Nelson Montfort.
Non, mais si vous voulez, j'ai souvent rêvé, par exemple, du fait c'est pas prémonitoire, mais par exemple que je dialoguais avec mes parents, que mes parents étaient encore en vie. Oui, ça m'arrive très souvent.
D'accord.
Quand je dis très souvent, c'est vraiment souvent. Bon, alors après le lendemain matin, évidemment, mais je pense que des gens qui m'ont marqué, et peut-être même que un ou deux héros, grands héros de sport ou grands héros que j'ai eu dans la vie, il y en a pas 50, mais il y en a 3 ou 4, il a dû m'arriver de dialoguer avec eux dans mon sommeil. Oui, c'est très bien comme ça.
Dans les 3 ou 4, c'est qui?
Je pense qu'il y a John et Robert Kennedy, il y a incontestablement François Sever, le grand pilote automobile français. Éric Tabarly, sans doute, lequel j'ai eu une admiration infinie. Voilà, ils sont 4 ou 5, il n'y en a pas 50. Quoi.
Alors, François Sever, vous en parlez dans ce bouquin, justement, Sport, mes héros de légende. Moi, le sport mécanique, c'est toute ma vie, c'est ma première passion. Et il y a une anecdote de François Sever, vous la connaissez certainement, peut-être, puisque vous commentez... il s'est tué à 29 ans sur Watkins Glen, il était pilote de Formule 1, il avait tout, ça devait être le premier champion du monde français en 1974.
En plus, je reviens sur son accident qui n'aurait jamais dû se produire, mais enfin bon, c'est comme ça.
Le destin. Ouais. Et il disait toujours, en tout cas c'est ce qu'on lisait à l'époque, moi j'étais tout jeune, j'avais 7-8 ans, et
même
moi j'étais
assez jeune, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas peu dire.
C'est dire, voilà, si t'en remontes.
Voilà, exactement, ouais.
Il disait que dans sa famille, il avait rencontré, c'est ce qui circulait, la rumeur, une cartomancienne, une diseuse de bonnes aventures, qui lui avait dit qu'il ne passerait pas le cap des 30 ans.
Anniversaire, c'est exact.
Vous vous souvenez de ça?
Oui, c'est exact. Mais ça m'a été confirmé par son frère Charles, qui est vraiment devenu un ami aujourd'hui et qui m'a envoyé un mot absolument adorable après. Parce que bon, dans ce livre, pour faire court, je parle... davantage, par exemple, de François Sever, qui a une victoire, enfin, il a 10 deuxièmes places, parce qu'il jouait les courses d'équipe de façon, aujourd'hui, plus personne ne ferait ça, mais il a une seule victoire, parce qu'il jouait les courses d'équipe admirable avec Stewart, et il était
Jackie
meilleur
Stewart.
Que Stewart
ouais,
à la
tout
fin.
À fait.
Et pourquoi je vous dis ça, c'est que c'était un seigneur, cet homme-là. C'était vraiment un seigneur. Et donc, je parle plus de lui, qui a une seule victoire en Grand Prix, que de Sébastien Vettel, qui est 4 fois champion du monde. Donc, voilà. Parce que il me touche davantage, comme je parle davantage de Luis Ocaña, le grand cycliste espagnol, parce qu'il me touche davantage, mettons, que Eddy Merckx ou que...
Il aurait dû gagner le Tour de France, il a chuté malheureusement.
Il l'a gagné une seule fois.
Ouais, il l'a gagné une seule fois.
Mais il aurait gagné 2 ou 3 fois, n'est-ce pas? Donc François,
oui, c'est l'émotion.
Oui, je confirme.
C'est l'émotion qui accompagne votre.
Oui, absolument. Si le mot émotion avait commencé par H, j'aurais mis un cinquième H dans le titre.
Et on fait ce qu'on veut. On a toute la vérité, toute la liberté ici. On met un H pour émotion.
On met un H à émotion. Mais pour vous dire qu'effectivement, ça m'a été confirmé par. Par son frère Charles, qu'effectivement, il y avait eu cette carte mentionnée, il dit « ce garçon ne dépassera jamais son 30e anniversaire
ouais. ». Ça s'est malheureusement révélé. Ouais. On va faire une deuxième pause, et après, moi je vous parlerai d'une anecdote sur Zinedine Zidane. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là.
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h, avec Yves Carra.
Oui, on est beaucoup, beaucoup à vous rencontrer chaque jour avec de nouvelles émissions. Alors moi, une fois par semaine, mais tous les jours. Vous avez bien sûr Bob qui vous dit toute la vérité, 21h minuit. Vous avez Mathieu, toute votre vérité, hein, une émission de Libre Antenne. Et si vous voulez aller plus loin avec les cartomanciennes, astrologues et autres, eh bien c'est de votre responsabilité. Puis François Démier, et si on allait mieux, de 14h à 15h. Et puis si vous hésitez un petit peu à vous abonner, bon, okay, écoutez les podcasts. Vous verrez, vous en écoutez quelques-uns, vous dites, je vais pas continuer à les écouter, je vais m'abonner, c'est trop bien. C'est où vous voulez, quand vous voulez, vous voulez pas regarder la télé, vous êtes avec votre ami, vous le faites, venez nous rejoindre, c'est vraiment très intéressant et on prend beaucoup de plaisir à vous rencontrer.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Carra.
Et avec un ami, Nelson Montfort, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer, que ce soit au micro ou dans la vie ou sur les parcours, parce que vous jouez beaucoup au golf, hein. Vous êtes un grand golfeur.
Oui, c'est un sport qui accompagne ma vie parce que je trouve que c'est un sport qui déclenche une vraie camaraderie. C'est un sport qui est en plus basé sur l'honnêteté, c'est-à-dire que on annonce son score à son partenaire, il n'y a pas d'arbitre. Ouais. Enfin,
l'autogestion, voilà, l'honnêteté.
Tout ça me plaît. Et puis alors bon, en général, c'est plutôt sur des paysages plus magnifiques qui permettent donc également de découvrir tout un tas d'endroits. Ouais, c'est un sport qui me fait beaucoup de bien à tous les sens du mot. Ouais.
Et vous en parlez dans ce livre, hein, Sport, Miro et Légende, Jack Nicklaus, Van de Velde. Il y a Jean Garayalde, effectivement,
oui,
qui est un golfeur extraordinairement doué.
Oui, et méconnu du public français alors qu'il est le plus grand palmarès du golf français, en tout cas d'après-guerre. J'essaie de rendre hommage aussi à certains, j'allais dire artistes, des sportifs sont des artistes, à certains sportifs peut-être un petit peu oubliés. Oui.
Le golf est autant un sport qu'un art. Alors Zinedine Zidane.
Là, vous allez m'apprendre quelque chose.
Non, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment une information qui est passée un petit peu à l'as parce que lui-même l'a vite occulté. Lorsqu'il a quitté l'équipe de France, hein, en 2000, si mes souvenirs sont bons, il a dit « je ne reviens plus en équipe de France ». Il y est revenu en 2004, hein, pour y participer en 2006, son célèbre coup de boule à Materazzi. Mais ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que il l'a dit, c'était dans l'équipe au mois de juillet-août 2003, donc un an avant son retour, il a expliqué pourquoi il revenait, parce que une nuit, il a eu une apparition, mais c'est dans une interview de l'équipe et de France Football, hein, donc j'invente rien, hein. Il a eu une visite en pleine nuit, qu'il a réveillé, d'une personne dont il n'a jamais voulu dire le nom, mais que pour lui, c'était pas un rêve, c'était une expérience, c'était du vécu. Il lui a parlé des heures, il l'a convaincu de revenir en équipe de France pour des raisons qu'il n'a pas voulu vraiment évoquer, et quelques jours après, il est revenu en équipe de France, et quelques semaines après, il a dit en confidence à un journaliste de l'équipe cette anecdote-là. Tout le monde lui est tombé dessus.
C'était pas Domenech, la vision.
C'était un cauchemar, ça. Domenech, c'était un cauchemar pour lui. C'était pas un rêve. Et ce qu'il y a de fou, c'est que quand il l'a dit en confidence, en disant, je me livre, voilà, ça s'est passé comme ça, mais tout, il a été raillé, moqué dans toutes les émissions pendant quelques jours et s'est tombé complètement dans l'oubli. Et lui-même, après, voyant que, tout le monde se moquait de lui, est revenu en disant, non, en fait, c'est mon frère qui est venu, il m'a dit ça, et il dit, je n'en parlerai plus jamais. C'est une interview, c'est clair, c'est prouvé, hein. Et ça vous fait quoi lorsque quelqu'un d'aussi célèbre que Zinedine Zidane, qui a aucun intérêt, comme vous, à mentir sur les ovnis, raconte des choses comme ça où ils disent ça vient d'une autre dimension?
Ça me touche beaucoup et je sympathise complètement avec ce type de propos, et en plus je trouve très honnête et très courageux de le livrer en public. Je trouve ça super. Et en plus, je ne connaissais pas cette anecdote.
C'est incroyable. Parce que c'est complètement tombé dans l'oubli. Lui-même a dit, bon, on n'en parle plus, les gars, vous arrêtez maintenant. Hop. Alors que ça a été, il s'est livré en disant, c'est fabuleux, je vais donner quelque chose de grand. Et finalement, c'est tombé dans l'oubli. Donc, dans le sport, il y a beaucoup de choses. Barthez aussi, Fabien Barthez avait souvent des sortes de prémonitions où il sentait qu'il était très zen, hein, Barthez. On disait toujours qu'il était totalement détendu. Ça doit avoir un rapport avec ça. Et il était toujours, il savait grosso modo comment allaient se dérouler les matchs. Il prenait deux buts, c'est pas grave. Je savais qu'on allait gagner, je savais qu'on allait remonter. Il était vraiment d'une décontraction totale. J'assimile ça un petit peu à de la prémonition. Et Zinedine Zidane qui dit toujours, moi je voyais les actions avant les autres.
Peut-être, ça c'est formidable.
Peut-être
ça.
Qu'il avait ce petit don de prémonition, qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, dans son jeu, c'est évident qu'il était d'une intelligence et d'une maestria absolument totale. Et je crois beaucoup à ça. Je suis très heureux de vous l'entendre dire.
Oui. Ouais. Et en même temps, est-ce que ça vous fait peur, vous, ces mondes de l'invisible?
Non.
Que c'est pour vous l'inconnu, d'ailleurs, quand on dit l'inconnu face à l'inconnu?
C'est la bienveillance. J'ai pas du tout de problème avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la dernière scène du film de Spielberg, Rencontre du troisième type, je dis bien Rencontre du troisième type, pas E.T., hein, quand il remonte dans le vaisseau, quoi.
Ouais.
Parce que le petit garçon, là, qui remonte dans le vaisseau, parce qu'il décide de les suivre. Ouais, je trouve ça formidable, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, je pense honnêtement que à l'évidence, si ils existent, ces personnes sont plus développées que nous.
Technologiquement, c'est sûr.
Technologiquement, ils sont plus développés. Donc, je suppose que s'ils avaient voulu nous faire du mal, ils auraient sans doute pu le faire. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que je pense qu'il y a pas mal de bienveillance dans leur manière d'être. Non, c'est pas du tout. J'ai aucune espèce de peur vis-à-vis de ces personnes-là, aucune.
D'accord. Donc votre inconnu, qui est pas vraiment inconnu, parce que vous avez vu des choses un peu extraterrestres. Il vous fait pas peur?
Non, pas du tout.
Bon,
du
ça tout. C'est plutôt rassurant.
Pas du tout.
Et par rapport à notre permanence, notre disparition, vous vivez ça comment? Vous pensez qu'il y a quelque chose après, d'ailleurs?
Oui.
Puisqu'il y a quelque chose dans l'espace, il y a quelque chose après.
Là, c'est déjà plus délicat. Là, c'est la question de la foi, etc., qui se pose. Vous savez ce que disait Werner von Braun? Il disait je ne conçois pas la notion de création du monde sans celle de créateur. Voilà. Je pense que
vous êtes catholique?
Je suis protestant.
Protestant.
Enfin bon, sur les croyances essentielles, c'est à peu près pareil. Je pense que je crois à un sauveur et je crois que ce sauveur va tenir par la main tous ceux qui ne sont plus de ce monde. Oui, je le crois. Oui.
Ouais. Donc vous n'avez pas peur de la mort?
Et je pense qu'il est pour la... Non, j'en ai peur pour mon entourage, ça c'est autre chose. Mais voilà, mais ça, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire ça.
Alors, vous savez,
non,
moi,
sinon, non. Ouais,
non. Vous n'avez pas peur?
Non.
Moi j'ai un truc fabuleux, j'ai interdit à mes fils de mourir avant moi. Je leur ai interdit, comme ça au moins je suis tranquille.
C'est un bon truc avec vos filles. Totalement.
Il faut leur interdire, comme ça on est tranquille.
Totalement.
Donc pas de peur vis-à-vis de ces mondes de l'invisible et de tout ça, parce que vous savez qu'il y a quelque chose après, quelque chose de mieux.
Tous les témoignages, Yves, ont l'air de concorder sur une sorte de rideau blanc, d'ombre blanche et d'impression de sérénité, de douceur. Tous ceux qui en sont revenus, il y a des témoignages très très forts. Tous les témoignages vont dans le même sens, donc non,
c'est vrai. Des expériences de mort imminente, ouais. Et dans tous les sportifs que vous avez rencontrés, est-ce que mentalement, là, on en revient à la force du mental, qui pour moi vraiment l'influence du mental sur la matière, qu'elle soit organique ou autre, vous vous dites tiens, il fait des trucs, c'est pas dans le manuel là, il y a quelque chose de fabuleux dans cette force mentale qu'on peut développer. Vous avez dû rencontrer ça déjà dans toutes vos.
Je pense qu'Éric Tabarly, dont on a brièvement parlé, était exactement le prototype je pense vraiment que il se trouve que j'ai eu l'occasion de le côtoyer, même de le côtoyer plus d'une fois, notamment dans des interviews où on m'envoyait au feu, et ça c'était bien avant mon entrée à la télévision. Tabarly répond jamais à personne. Moi il m'avait répondu, j'étais tout jeune journaliste, je me souviens, j'avais été le voir à Rueil-Malmaison, il avait un appartement à Rueil-Malmaison. Il m'avait très 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 gentiment accueilli. Ouais, je pense qu'Éric Tabarly est un personnage quasi élu pour le sport qu'il a fait. Et alors je me suis beaucoup intéressé à lui. J'ai visité à Lorient le musée, enfin la maison qui lui est consacrée, où il y a son carnet de notes et on dit est fait pour tout sauf pour la navigation. Et quand on voit quand on voit ce genre de choses. Ouais, ça me fait sourire, oui.
Est-ce qu'il y en a qui arrivent à transcender leur destin? Parce que quand on vous dit apparemment vous n'avez pas de qualité, fait pour tout sauf pour la navigation, et pourtant vous avez choisi ça, c'est contre les autres ou c'est parce qu'il y a une force qui vous porte, à votre avis? Alors ça va la porte à Barley pour tous les autres sportifs qui, il y en a, je suis sûr que Lavillény, petit comme il est avec son physique, on allait dire mon garçon, là, la perche, ça va pas être pour toi.
Non,
quoi.
Sûrement pas.
Et pourtant, il a transcendé ça.
Oui, il a absolument transcendé ça. C'est un très bon exemple, Lavillény. Je pense que. Il y a un autre garçon qui me touche énormément, c'est le nageur Yannick Agnel. C'est vraiment un garçon qui, aujourd'hui, je trouve, a une maturité, une, une intelligence, une culture. On a l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a 45 ans. Or, il en a 23. Je veux dire, c'est devenu vraiment... J'hésite vraiment à prononcer le mot d'ami, parce que bon, ami... Et malgré notre grande différence d'âge, on est très, très complices. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'échange. Lui, il est à Baltimore, aux États-Unis, comme vous le savez. Je veux dire, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis plus récemment, là, parmi les sportifs français qui ont brillé au JO... un garçon comme Kevin Roland, que je connais pas. Bon, il se trouve qu'il est très aimé avec ma fille, mais c'est quelqu'un de bien, quoi. Ça se voit, ouais. Je le sens, je le sais. Donc voilà, ce genre de destin-là m'intéresse. Mais vous savez, c'est aussi la raison pour laquelle dans mon livre, il n'est pas question, et de loin pas, que de sportifs français, parce que je dis la même chose pour les sportifs étrangers. C'est pas parce qu'ils sont français que je les aime davantage que d'autres.
Et alors, la part du mental dans la performance sportive, presque quelle qu'elle soit. Alors, dans le golf, c'est encore... C'est énorme, évidemment. Vous avez déjà rencontré des sportifs qui ont travaillé avec des psychologues. Romain Grosjean a travaillé avec une psychologue, justement. On a parlé de Formule 1. Il y a eu le premier Grand Prix de Formule 1 il y a quelques semaines.
Qu'il change de psychologue. C'est méchant ce que je veux dire. Et je pense et j'espère qu'il obtiendra. D'ailleurs, je pensais qu'il avait déjà gagné les Grands Prix. Apparemment, il est toujours à zéro victoire en Grand Prix.
Romain Grosjean?
Oui.
Non, il n'en a pas gagné. Il a gagné dans la Formule 1.
Il a fait pas mal de deuxième place, etc. Donc je pense
fin d'année dernière, il a fait quelques podiums de suite.
Donc je pense que j'espère que la première victoire est pour cette année.
Bah, avec son moteur, ça va pas être facile, même si Ricardo a fait second au premier Grand Prix, même si après il a été déclassé. Donc la part du mental dans. Est-ce que vous pensez que le mental peut prendre le pas sur le physique? Très clairement.
Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça. Vous savez, je crois que souvent on dit un tel a craqué, etc. Je ne suis pas sûr de ça. Déjà, dans les sports collectifs, même si l'un est un peu plus faible un jour donné, il y a toujours les autres pour rattraper le coup. Et dans les sports individuels, en tout cas moi, chez les sportifs que j'ai pu rencontrer, je n'ai pas d'exemple saillant, d'exemple frappant de sportifs ayant véritablement craqué au moment de conclure. Si vous en avez, Yves, moi je vous écoute bien volontiers, mais je n'ai pas d'exemple.
Alors craquer ou c'est l'autre qui a été plus fort à ce moment-là, même s'il a pas vraiment craqué. On pense à Borg et McEnroe. Vous en parlez dans votre livre justement.
Les deux, aucun n'a craqué. Je dirais.
Ouais, voilà. Là, c'est Borg qui a élevé le niveau d'un coup qui a été un petit peu au-dessus.
Deux mois après, c'était McEnroe. Donc
voilà.
Non, je pense franchement sur les grands champions. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne tout de suite en mémoire. Je dis bien sur les grands champions de personnes qui ont craqué. Et si, et vous savez, vous avez parlé de golf.
Ouais.
C'est le grand champion sud-africain Gary Player qui disait « C'est curieux, plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. »
Oui, c'est vrai.
C'est une jolie phrase. Ça, parce que,
j'adore, c'est un de mes fans.
Oui, c'est plus je m'entraîne. Donc voilà, ces gens-là s'entraînent. Buddy Miller, le skieur américain, à 38 ans, a obtenu 4 Jeux olympiques de suite, encore une médaille de bronze. Bon, il avait 2 centièmes d'avance sur le 4e. Mais ces 2 centièmes, c'est peut-être parce qu'il travaille, parce qu'il s'entraîne, voilà.
Buddy Miller, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que c'est au contraire le hippie des pistes de ski années 2000, quand même.
Oui, mais c'est un hippie.
Vous croyez qu'il s'entraîne au...
Bah, écoutez, en tout cas, sa carrière le prouve. Et puis, alors, quelqu'un qui, c'est extraordinaire, parce que, je veux dire, depuis plusieurs années, en Coupe du Monde, ça marche comme ci, comme ça. Mais dès qu'arrivent les grands championnats, type Jeux Olympiques, il est toujours là. Eh ben ouais, chapeau quand même, chapeau.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces sportifs, que nous, le commun des mortels, vous qui les côtoyez depuis tant d'années? Qu'est-ce qu'ils ont de plus?
Je pense qu'ils ont cette préparation physique qui fait qu'ils se sentent entièrement en confiance le jour donné. J'en ai parlé avec... Bon, il se trouve que les nageurs français sont devenus des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de sympathie. Je pense à Maury Leveau, voilà, des gens comme ça. Et j'en ai pas mal parlé avec eux, et notamment avec lui, Amaury Leveau. C'est un garçon, c'est un peu un tout fou, quoi. C'est un gentil, c'est un tout fou. Donc, c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, va faire des grands efforts psychologiques. Mais physiquement, le jour présent, en l'occurrence au JO de Londres, il était là parce qu'il a su se préparer au bon moment.
Alors, se préparer physiquement, mais si on est fort physiquement, on est fort mentalement.
Oui, parce qu'on sait, parce qu'à partir du moment où on est bien préparé physiquement, on sait qu'on va être là. Et on sait qu'on va performer.
Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt pensé que vous seriez parti sur le mental, au contraire, à fond.
Je ne crois pas trop. Bon, naturellement, il faut être bon psychologiquement, mais je sais que chez les sportifs, puisque vous me parlez des sportifs, c'est la préparation physique qui compte le plus.
D'accord.
J'en suis intimement persuadé.
Alors, et dans les autres grands hommes que vous avez pu rencontrer, hommes politiques ou autres, alors on sort peut-être un petit peu du domaine sportif, est-ce qu'il y en a qui, mentalement, avaient une aura pour vous particulière, un charisme différent, des gens qui vous disent celui-là il a une lumière, il a quelque chose,
c'est drôle,
une aura,
parce
quoi,
que
une âme, en
c'est
fait.
Drôle ça, parce que c'est la même chose que c'est la même chose que pour mon livre ou autre. Je pense que les personnes que vous n'avez pas rencontrées, que vous donc quelque part vous idéalisez, quelque part qui vous garder cette part de rêve, c'est plus fort que les personnes que vous avez rencontrées. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au sortir d'un spectacle, que ce soit un grand artiste, un chanteur de vérité, ou un chanteur ou une chanteuse lyrique, ou même un grand acteur, etc., sur scène ou autre, j'ai jamais trop cherché à aller dans les coulisses après le spectacle. Au fond, vous ne pouvez être que déçus. Ils vous ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur scène, dans l'exercice de leur fonction. Derrière, vous ne pouvez être que déçu. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans ma fonction, où là, effectivement, il m'appartient d'aller faire des interviews, de recevoir studio, etc., les grands héros de ce sport, souvent, peut-être même involontairement, j'ai un petit peu embelli la situation. Ouais. Certainement.
Bon, il y a une phrase que j'adore, c'est « Quand la légende est plus belle que l'histoire, racontez la légende ».
Exactement.
Voilà.
Je n'ai rien à ajouter. C'est une très jolie phrase. De qui est cette phrase?
Je ne sais pas. Je l'ai
peut-être
lu.
De vous.
Je l'ai lu quelque part et je la trouve tellement vraie.
C'est tellement juste. Et vous me parlez des hommes politiques. Les hommes politiques, vous savez, sont des gens comme vous et moi. C'est pas tellement plus extraordinaire.
Avec peut-être un petit peu plus d'agressivité. Il faut être un peu agressif quand on est.
Non, mais vous me parlez de lumière.
Ah, de lumière, oui. Ça, d'accord.
Je suis pas sûr que ce soit chez les hommes politiques qu'on va trouver cette lumière.
Non.
Et cette lumière qu'on trouve chez les artistes, parce que là, il peut y avoir vraiment de la lumière. Je vous parle pas des tableaux de Michel-Ange ou du Caravage. Là, c'est encore autre chose, n'est-ce pas? Mais même les deux exemples que je vous cite, surtout le second. Qui était un fieffé larron, hein, Caravage, qui était peut-être le plus grand peintre de l'histoire de l'humanité, mais est-ce que c'est bien d'aller le rencontrer après? Je n'en suis pas sûr. Je peux, si pas aller au bout de mon raisonnement, je dirais plus la personne vous fait véritablement rêver, plus...
Moins il faut la rencontrer.
Exactement.
Pour garder cette part de rêve.
Exactement. Ah, j'en suis, mais alors, intimement persuadé.
Alors, vous aimez les gens. Est-ce que vous devez avoir cette sensibilité du magnétisme humain, puisque dans la bienveillance, il y a une sorte de synchronisation qui se met avec le. Vous devez l'avoir. Hein, le magnétisme. Ouais. Vous sentez ce magnétisme chez les gens.
Oui. Et je sens également quand c'est l'inverse.
Ouais. Quand vous êtes repoussé aussi. Ouais. Ah, ça va. Ça marche dans les deux sens.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, quand c'est l'inverse, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, ça ne marchera pas.
Ça se voit tout de suite.
Je pense.
Ouais. Dans le regard, dans les yeux, quand vous croisez quelqu'un.
Je pense.
Ça ne va pas être facile d'interviewer.
Ça se voit même quand la personne est derrière vous. Ouais, ça se sent. Il y a les ondes. Ah, ça, j'en suis persuadé.
Ah, vous y croyez à ça?
Ah oui, ça, j'y crois. Alors, j'y crois très, très profondément. Aux ondes positives et aux ondes négatives, j'y crois très profondément.
L'électromagnétisme, le magnétisme humain.
Ah, j'y crois alors très profondément. Et dans les deux sens.
Ouais. Et vous pensez que ça peut se développer par la méditation, des choses comme ça qu'on peut...
Sans doute, probablement. Ouais. Alors là aussi, je me suis pas mal intéressé à ça. J'ai jamais eu trop la patience d'aller dedans, mais je sais que la sophrologie, ce genre de choses, la méditation peuvent faire beaucoup de bien, beaucoup beaucoup de bien.
Et vous méditez pas, vous ?
Si, je médite avec les poètes, les écrivains et la musique.
Ah, la musique classique.
Ouais, la musique classique.
Vous avez présenté des émissions de musique classique.
Même,
mais c'est
même,
très méditatif.
Même certaines,
hein.
Mais complètement, mais même certaines chansons de variété, dites de variété, qui est un terme un petit peu péjoratif, me plaisent infiniment. Moi, si vous me mettez dans une ambiance jazzy Sinatra années 60, j'ai besoin de personne pour être heureux, hein, vraiment. Hein.
Et
bien d'autres choses, mais...
C'est un état méditatif de fait.
En tout cas, c'est un état de profond bonheur, ouais.
Mm-hmm.
Ouais.
Quels ont été les grands moments de bonheur dans votre vie, justement, jusqu'à maintenant, la naissance de vos deux filles, j'imagine, ou les grands tournants de votre histoire à vous, de votre histoire personnelle, où vous êtes dit... Parce que il y a des choses quand même dans la vie, on essaie parfois d'arriver à certaines choses, on n'y arrive pas, et en fait, les choses se passent sans qu'on les ait vraiment demandées. C'est quand même un signe du destin, ça prouve qu'il y a quelque chose qui nous guide, on maîtrise pas tout.
Ce sont des bonheurs simples, vous savez... Je disais là l'autre jour, non pas l'autre jour, il y a 20 minutes, je disais ce jour-là, j'ai dû rater un peu, etc. Vous savez, des bonheurs simples, c'est une jolie partie de golf, une partie de tennis avec mes filles, une descente à ski, voilà, sont des bonheurs simples. Et en tout cas, ce sont très rarement des bonheurs professionnels, ce sont presque toujours des bonheurs personnels. Oui, j'ai un petit peu passé l'âge de m'exalter sur des bonheurs professionnels qui sont... par nature très éphémères et qui deviennent de plus en plus éphémères. Donc voilà, sont des bonheurs simples, ouais, des bonheurs simples personnels.
Familiaux, personnels.
Oui,
intérieur.
Artistique aussi. Ouais. J'aime beaucoup marcher. Et marcher, ça veut dire lever la tête, etc. Et voilà, j'ai des coups de cœur sans arrêt. Et puis alors, surtout, j'ai tout le temps des musiques ou des chansons en tête, mais tout le temps. Ça devient parfois un peu pénible pour mon entourage, parce que le matin, je me réveille, hein, je vous fais une petite confidence, je me réveille avec une chanson, sans avoir aucune idée de pourquoi c'est celle-là ou pourquoi c'est une autre. Et le problème, c'est qu'elle ne sort pas de ma tête pendant une heure ou deux heures. Alors, ma femme, comme dirait le lieutenant Colombo, on a quelquefois un petit peu assez. Est-ce que tu pourrais pas un peu changer d'air? J'essaye. Changer de disque. C'est-à-dire, j'essaye, c'est pas toujours si facile. Alors, j'essaye au moins que ça soit plutôt une belle chanson.
Alors, vous avez présenté des émissions de classiques, vous avez écrit des livres, notamment ce dernier, qui est le sixième, Sport, mes héros et légendes, vous avez fait du théâtre, et pourquoi pas la chanson? C'est vrai ça maintenant, si vous avez des chansons dans la tête?
Alors,
au moins écrire ou composer?
Alors ça c'est déjà fait, et le problème c'est que ce n'est pas encore enregistré. J'ai commis, c'est le mot, quelques chansons il y a quelques années, et là... Avec Gérard Rolls, que vous connaissez, nous produisons parfois pour des œuvres caritatives, et on passe de très très bons moments. On passe de très très bons moments. Lui dans un registre disons un peu plus rock'n'roll, moi un petit peu plus crooner. Et voilà, disons que j'ai la chance à peu près de chanter juste, d'être guitariste. Disons que dans une autre vie, la chanson ne m'aurait pas déplu, ça c'est sûr.
Bah oui, parce que de toute façon, quand on est journaliste et sportif, on est habitué à communiquer avec le public, à faire du direct, à être spontané, à réagir, parce qu'on suit une... Donc on est bon partout après, hein, souvent.
Oui,
souvent
puis je me suis rendu compte que des grands artistes aimaient beaucoup le sport, des grands chanteurs aimaient beaucoup le sport, et pratiquement tous les sportifs aiment la chanson. D'ailleurs, on leur a suffisamment reproché de venir avec des Walkman sur les oreilles.
Voilà.
Donc oui, je pense qu'il y a un vrai lien entre sport et musique. D'ailleurs, il y avait des émissions qui s'appelaient Sport et Musique il y a quelques années en arrière. Je pense qu'il y a un vrai lien, et je pense.
Et alors, je suis curieux, par rapport à vous et votre évolution personnelle, est-ce que vous dirigez plus vers quelqu'un, un personnage intérieur, vers plus de réflexion, de spiritualité, de foi?
Oui, incontestablement. Ouais.
Vous mûrissez bien avec l'âge?
Oui, disons que la méditation dont vous parliez, dont l'écoute de la musique fait incontestablement partie...
D'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais on devrait plus écouter de musique classique, hein, parce que il y a vraiment, et c'est pas la peine d'aller chercher des chants péruviens ou autres. La musique classique suffit, c'est totalement méditatif, c'est fabuleux.
Mais je vais même plus loin. Je pense que quand on est dans un embouteillage, dans sa voiture, on n'a pas la même attitude quand on écoute du Mozart ou quand on écoute rien du tout ou de la petite variété, qu'elle soit française ou anglo-américaine. Donc
ça,
je le pense, mais très très profondément, je pense que la musique fait vraiment du bien
au corps physique, il y a une interaction physique sur le corps, très clairement, hein. Ça a été démontré, hein, de toute façon, dans la vie, la musique
et
rock,
la musique
classique.
Prévert disait de la poésie, c'est le plus joli surnom donné à la vie. Je trouve que c'est une très 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 jolie phrase.
La poésie, le plus joli surnom donné à la vie, c'est joli.
C'est une très jolie phrase. Je pense que ça va bien ensemble.
L'art et la mémoire du temps aussi.
En plus, la France a quand même la chance d'avoir vraiment parmi les plus grands poètes du monde. Et voilà.
Alors, puisqu'on dit toute la vérité, hein, sur cette web radio, qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui vous scandalise dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez crier au monde en disant mais arrêtez de faire ça, on va dans le mur?
Les jalousies, les dénonciations, les messages anonymes sur Internet, tout ça me révolte. J'en parlais avec le comédien Roland Giraud, pour lequel j'ai une grande affection et une grande estime. Il a eu un drame épouvantable sa vie, oui. Et il me disait qu'il a même écrit dans un livre, donc je peux vous le dire. C'est terrible. Rien que de le dire me fait frémir. Mais comme il l'a écrit, c'est pas du tout trahir sa pensée. Il me disait que les pires messages d'insultes, de menaces, etc., anonymes, cela va de soi, il les a reçus juste après ce drame. C'est-à-dire que, bon, comme sa fille est décédée dans des conditions terribles, assassinée dans des conditions... Mais il les a reçus. Et il me disait, mais voilà, parmi les pire, je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais parmi le pire de la nature humaine, la jalousie est sans doute le pire. Voilà, ça me révolte. Ça me révolte. Alors, bon, voilà, je me suis souvent demandé, j'ai eu l'occasion de le dire, mon Dieu, que se serait-il passé, Yves? Que se serait-il passé si Internet avait existé entre 1940 et 1944? Parce que déjà, qu'à l'époque, les lettres anonymes étaient sans mon voisin Lévy, ouais. Là, je ne sais pas quel commerce, etc. C'est des trucs absolument épouvantables, mais épouvantables, naturellement anonymes. Aujourd'hui, mais ça serait, enfin, je n'ose même pas l'imaginer, quoi. Ça me révolte. Ça me révolte. La lâcheté, l'agressivité anonyme, me révolte profondément. Et hélas, Internet qui est à la fois la pire et la meilleure des inventions, elle est la plupart du temps la meilleure, mais elle peut parfois être également épouvantable. Et voilà. Alors, il y a certainement bien d'autres choses, mais plus
ça, puisque vous parlez, vous parlez comme ça. La délation, tout ça, ouais.
Oui, voilà.
Est-ce que vous êtes
délation. Comme... Alors... La délation est quasi toujours anonyme. Me révolte.
Mais alors, quand vous dites ça, est-ce que vous êtes... Pourtant, vous êtes bienveillant avec les gens, mais est-ce que vous êtes optimiste pour l'homme et son futur, alors? Parce que c'est un peu votre paradoxe. Vous êtes bienveillant, vous aimez les gens, et en même temps, il y a des gens qui peuvent être d'ailleurs bons et mauvais, délateurs à un moment donné, peut-être sauver les hommes ensuite. En général, ça peut arriver.
Je suis rousseauiste. C'est-à-dire que là, on vient de fêter le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, qui n'avait pas que des qualités, mais au moins, dans ses écrits, je trouve qu'il y a des écrits qui sont... Il y en a certains qui sont un peu démodés, mais d'autres, pas du tout. Et quand il dit que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt, eh ben mon Dieu, je suis bien obligé de dire qu'il y a du vrai là-dedans. Alors évidemment, Dieu merci, il y a des exceptions, il y a heureusement beaucoup d'exceptions. Je pense même qu'il y a davantage d'exceptions que d'esprits malsains. Mais le problème, c'est que les quelques esprits malsains font beaucoup de mal. Beaucoup de mal et...
Moi, ce qui m'impressionne toujours, puisqu'on parle d'histoire et d'hommes de délation, et puisque vous avez parlé de cette période 40-44, c'est qu'un seul homme puisse stigmatiser avec toute une équipe autour de lui, comme Hitler, autant de haine de tout un peuple, à un moment donné d'histoire, et qui provoque autant de... qui soit suivi par autant de personnes. Ça, parce que qu'un homme seul, comme ça, a créé quelque chose, pourquoi pas, mais qu'il soit suivi par des millions et qu'à un moment de l'histoire, il fasse basculer comme ça toutes ces nations, ça, je trouve ça très impressionnant. Quelle force négative.
Oui, mais ça, c'est aussi les conséquences du traité de Versailles de 1919 qui ont eu beaucoup de...
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, Goldman,
c'est
fabuleux.
C'est drôle, Yves. Alors là c'est, on parlait de phénomène. Alors là, il vient d'y avoir une transmission de pensée.
Vous y pensiez aussi?
Mais exactement au même moment où vous en avez parlé.
J'ai dû le lire dans vos yeux.
Je trouve que c'est l'une des... Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été
allemand. C'est le fondement.
C'est extraordinaire parce que je crois qu'on arrive presque au terme de notre entrée. Ouais. C'est extraordinaire parce que au moment même, oui, quand je parlais d'ondes, en plus c'est pas une de ses chansons les plus connues. Elle est très belle, mais c'est pas parmi ses immenses tubes. Hein. Eh bien, au moment même où vous en parliez, où je pensais à cette chanson.
Parce qu'on a les yeux dans les yeux et ça doit passer. Tout à fait. Ouais. Parce que cette chanson,
c'est exactement ça.
Apparemment anodine, elle est le fondement même de ce qui s'est passé ensuite. Donc ça remonte très très loin.
Exactement.
Et Goldman est donc concerné évidemment par le sujet.
En plus, c'est un artiste pour lequel j'ai eu une
chance. Mathieu, la réalisation, respect.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand?
Et il y avait son copain, un guitariste, Michael Jones, qui reprenait lui irlandais s'il était né sur les docks de Belfast.
Ouais.
Et puis il y avait la regrettée
Carole Fredericks
qui disait s'il avait été né dans les quartiers blancs. Donc il faisait le parallèle entre ses trois vies et ses trois destins. Ouais. C'est une de mes chansons aussi préférées par
l'adore.
La puissance de l'histoire et de la force qu'elle a. De toute façon, Goldman, chaque époque de la vie, on peut sortir une chanson. C'est d'une intelligence, d'une musicalité et d'un talent. D'ailleurs, c'est l'homme le préféré des Français.
C'est mon homme préféré, en tout cas.
Avec sa discrétion, avec quelqu'un qui s'occupe des Restos du Cœur. Enfin, il est juste fabuleux.
Ouais.
S'il veut venir ici, c'est quand il veut, Jean-Jacques Goldman, pour les connus face à l'inconnu. C'est pas gagné parce qu'il est assez discret. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, Nelson Montfort, je vous laisse le mot de la fin. Ce serait quoi pour vous le mot de la fin dans Les Connus face à l'inconnu?
Écoutez, j'espère vous avoir dévoilé justement pas mal d'inconnus, tout en laissant justement ces petits pointillés. Parce que je trouve que les pointillés, c'est bien, ça accompagne la vie. C'est bien de connaître quelqu'un, mais c'est aussi bien de laisser un petit peu
d'ombre.
voilà une part de une part d'inconnu. J'espère ne pas avoir trop de part d'ombre, mais une part de une part d'inconnu.
Je trouve et de que, mystère.
Et de mystère. Je trouve que la nature humaine est faite de cela, même avec ses plus proches. Et peut-être ne faut-il pas, c'est un petit peu, vous savez, comme quand vous avez des tours de magie, des magiciens, il ne faut pas trop chercher à savoir comment, ah, qu'est-ce que vous avez fait. Non, gardez un petit peu cette part de mystère, j'aime bien. Et c'est pour ça que l'heure que je viens de passer avec vous a été vraiment un très très joli moment.
Un bonheur et un plaisir partagé. Ouais. Merci Nelson Monfort.
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand?
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Carrat.